Vous écoutez
RMC.
Il est 6h01 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Clara Gamillet. Bonjour Clara.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une, des Bleus flamboyants contre la Suède.
Ils affronteront le Paraguay en 8e après cette victoire 3-0 avec un homme qui a particulièrement brillé, Michael Olise. Nous serons en direct de New York. Une élection présidentielle pendant les vacances scolaires. Les dates sont tombées, ce sera le 18 avril et le 2 mai. Et puis la voiture n'est plus tellement votre allié pour des vacances moins chères. Les prix ont explosé en 10 ans.
Les Bleus ont survolé la Suède.
C'était une véritable démonstration. Victoire 3-0, sans difficulté. Un doublé de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola. La France est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. Ce sera samedi contre le Paraguay. Mais les supporters de cette fan zone à Paris voient encore plus loin, Camille Borin.
On est en huitième.
Après avoir vu la démonstration française face aux Suédois, Sébastien est confiant pour la suite de la compétition.
On peut se dire que, au regard de ce qu'ils sont capables de faire depuis 4 matchs et dans les jours à venir, ils vont progresser, continuer à évoluer et puis vraiment à faire des matchs magiques.
Le prochain duel, ce sera face au Paraguay.
Une formalité, juste une formalité.
Les tombeurs de l'Allemagne en 16e de finale ne font pas du tout peur à Lucas.
Aucun stress pour nous, on n'est pas l'Allemagne, donc tout va bien se passer.
Et quand on demande à Samira ce qu'elle imagine pour les Bleus...
Une troisième étoile, évidemment. Ils sont là, ils sont combatifs, il y a tous les ingrédients. C'est la dernière sélection pour Didier Deschamps, on y croit. Ils vont lui faire le cadeau, ils vont nous faire ce cadeau.
Mbappé et ses coéquipiers ont 4 matchs à remporter pour réaliser le rêve des supporters français.
Jean-Louis Tour, la voix du foot sur RMC. On vous retrouve en direct de New York ce matin. C'est vous qui étiez au commentaire hier soir sur RMC. Jean-Louis, il y a donc eu cette grosse performance du capitaine des Bleus, mais il y a aussi et surtout eu un match exceptionnel de Michael Olise.
Ah oui, c'était l'homme du match hier soir. En tout cas, ça l'était pour les supporters que vous entendez derrière moi, debout pour l'applaudir au MetLife Stadium au moment de sa sortie à la 84e minute. Et avant cela, Olise a offert un récital, 2 passes décisives et ce qui aurait dû être le but du tournoi avec un retourné qui a fini sur le poteau. Didier Deschamps, le sélectionneur, était aux premières loges.
Michael enchaîne des prestations de très très haut niveau. Michael a ce caractère un peu introverti mais tellement sensible. L'important c'est qu'il soit pas introverti sur le terrain où il a beaucoup de personnalité. Après voilà, il y a un relationnel entre les joueurs offensifs.
Adversaire avec le PSG contre le Bayern et désormais partenaire, Bradley Barcola est aussi impressionné. Lui qui a bénéficié d'une passe décisive d'Olise.
C'est incroyable. Déjà, on l'avait déjà vu en Ligue des Champions quand on avait joué contre lui à plusieurs reprises. Et là, de jouer avec lui, c'est un vrai réel plaisir. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Chaque ballon qu'il touche, c'est dangereux. Donc, c'est parfait.
Seule anomalie avec ce niveau de jeu affiché, c'est qu'Olise n'a pas encore marqué sur cette Coupe du Monde. Il se réserve peut-être pour le Paraguay samedi.
Jean-Louis Tour en direct de New York. La Norvège, elle aussi, décroche son ticket pour les huitièmes en battant 2-1. La Côte d'Ivoire, Erling Haaland, buteur en fin de match. Et puis le Mexique se qualifie à l'instant. On l'a suivi il y a quelques minutes. Se qualifie en battant l'Équateur 2-0.
Vous réagissez au 32-16. C'est sûr que quand on est supporter des Bleus, on a un peu envie de gaber hein, ce matin. On s'y voit déjà. Il y a encore le Paraguay à passer. On entend les supporters ravis du match. Ne nous privons pas.
Oui. Gabon
avec grand plaisir. Vous réagissez au 32-16, vous êtes supporter des Bleus, confiant pour la suite, vous nous le dites.
Allez, il est 6h05 sur RMC, sortez vos agendas puisque ça y est, on connaît les dates de la prochaine élection présidentielle.
Premier tour, le 18 avril 2027, le second, le 2 mai 2027 et ça n'est pas tout à fait anodin. Cyprien Pezeril, service politique d'RMC, certains électeurs pourraient ne pas être chez eux.
Oui, le premier tour aura lieu en pleine vacances de printemps pour toutes les zones. Quant au second, il se déroulera alors que les académies de la zone B, Aix, Marseille, Nantes ou Amiens, seront encore en congé. Et cela pose donc forcément la question d'un impact sur la participation. Ce second tour aura lieu surtout au lendemain des manifestations syndicales du 1er mai, un moment très politique durant lesquels les chefs de la gauche ont pour coutume d'être dans les cortèges. Et ce n'est pas neutre, nous serons alors en période de réserve. Par ailleurs, le 1er mai, il y a aussi le risque de potentiel débordement. De telles images pourraient-elles avoir une influence en dernière minute sur le vote des Français. L'exécutif en tout cas a tranché après avoir longuement tergiversé, ce qui devrait soulager certains candidats impatients qui vont enfin pouvoir inscrire ces dates sur leur premier tract de campagne.
Déjà un nouvel épisode de chaleur qui se profile à partir de vendredi selon Météo France, et alors que la canicule qui vient de se terminer continue d'enflammer les débats, notamment à l'Assemblée hier, de ses propres mots, le Premier ministre est sorti de ses gonds alors que les écologistes ont avancé un bilan de 10 000 morts pendant cet épisode de chaleur. Bilan scandaleux selon lui. Le groupe écologiste annonce sa volonté de déposer une motion de censure contre le gouvernement.
Les mineurs accusés de crimes vont-ils pouvoir être maintenus en détention?
C'est la question qui se pose ce matin à cause d'un vide juridique. Une disposition de 2019 du code de la justice pénale des mineurs a été censurée l'an dernier. Maxime Cliérusa, service police-justice d'RMC, cela suscite beaucoup d'inquiétudes chez les magistrats.
Oui, le ministère de la Justice avait pourtant un an pour se mettre en conformité, mais aucun texte n'a été inscrit à l'agenda de l'Assemblée nationale. Conséquence, entre l'ordonnance de mise en accusation qui clôture l'enquête et le début de son procès, un mineur de plus de 16 ans accusé de crime ne pourra pas être maintenu en détention. Un vide juridique qui inquiète Ludovic Fria, président de l'Union syndicale des magistrats.
Il s'agit en principe des mineurs les plus dangereux, impliqués dans des assassinats, dans le crime organisé, des mineurs qui auraient commis des viols particulièrement graves.
Le ministère de la Justice explique que la situation ne concerne que les nouveaux dossiers, que cela devrait être réglé d'ici la fin du mois par un amendement déposé dans le cadre du projet de loi sur la justice criminelle, un texte actuellement en examen à l'Assemblée nationale et que le garde des Sceaux espère voir voter à la mi-juillet.
L'allocation chômage n'est pas revalorisée aujourd'hui comme c'est le cas pourtant depuis 10 ans. Les organisations patronales estiment que l'état des finances publiques ne permet pas de la revaloriser à hauteur de l'inflation. L'an dernier, elle avait augmenté de 0,5%. C'était jusqu'ici une solution accessible, mais partir en vacances en voiture est-il devenu un luxe? En 10 ans, le coût pour un aller-retour Paris-Nice a grimpé de 40% selon une étude du club automobile Roul, à cause du prix du carburant et des péages, Amélie Courtais.
Oui, difficile à croire, mais il fut un temps en 2016 où le diesel était à 1,13€ le litre, 1,30€ pour l'essence. Des prix qui n'ont cessé de progresser ces dernières années, dépassant largement l'inflation, jusqu'à atteindre un pic historique au printemps dernier au-dessus des 2€ le litre. Résultat, pour un Paris-Nice, il faut compter en carburant 40€ de plus qu'il y a 10 ans. À cela s'ajoute le prix des péages qui, eux, sont passés de 76 à 91€ sur ce même trajet. La tendance est la même si vous optez pour d'autres destinations. La Bretagne, par exemple, quand on additionne carburant et péage, le trajet Paris-Brest a augmenté de 32€ depuis 2016. Alors, pour freiner ces dépenses, l'étude conseille de comparer les prix des stations essence avant de prendre la route, ou bien de décaler son départ pour éviter les embouteillages.
De moins en moins intéressant de circuler en voiture pour les vacances. Alors après, vous me direz que c'est toujours moins cher que le train, mais une hausse de 40% des frais en 10 ans, ça a augmenté deux fois plus vite que l'inflation. On en parle avec vous à présent au 32-16 si vous le souhaitez, et à 6h40 tout à l'heure avec Alette Dassigny, directrice Impact du club automobile Roule, qui réalise cette étude.
Et puis à Wimbledon en tennis, les retrouvailles n'ont pas été celles qu'elle espérait à 44 ans. Serena Williams éliminée dès le premier tour, battue en 3-7 par l'Australienne Maya Joint pour son premier match en simple depuis 4 ans. L'Américaine attendue demain en double avec sa sœur Vénus.
Merci Clara, c'était le journal de 6h et dans un instant, c'est l'heure du choix de la rédaction. On retrouve Bérangère Bocquillon, bonjour.
Bonjour.
Bérangère, les programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle sont appliqués depuis septembre, de la maternelle au lycée. Et vous nous dites ce matin que le nombre d'élèves à en avoir bénéficié est décevant.
Oui, ces cours dans lesquels on apprend aux enfants que leur corps leur appartient, par exemple, eh bien, 6 élèves de primaire sur 10 seulement ont suivi les 3 séances qui sont pourtant obligatoires.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h13 sur RMC et RMC Story.
RMC, le choix de la rédaction.
Ils ont fait couler beaucoup d'encre, les nouveaux programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle pour les élèves de la maternelle à la terminale. Ils sont mis en place depuis septembre dernier à raison de 3 séances obligatoires par an.
Bonjour Bérangère Bocquillon.
Bonjour.
Vous êtes chef du service société d'RMC. Vous nous révélez, c'est une information RMC ce matin, que seuls 6 enfants sur 10 en primaire, 6 enfants sur 10 ont suivi les 3 séances obligatoires selon le ministère de l'Éducation. Des séances qui sont pourtant, rappelons-le, essentiel à la protection de l'enfance.
Oui, c'est comme si je vous disais que seulement 6 élèves de primaire sur 10 ont suivi tout le programme de maths ou tout le programme d'histoire. car depuis cette année, l'éducation à la vie affective est un programme scolaire au même titre que les autres. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend ? En primaire, par exemple, les enseignants expliquent aux enfants que leur corps leur appartient, la notion d'intimité, de consentement, l'égalité entre les filles et les garçons, ce qui fait que ces programmes protègent les enfants et entraînent même une libération de la parole. Écoutez bien ce témoignage d'une directrice d'école en Île-de-France qui a mis en place des séances d'éducation à la vie affective du CP au CM2, ce qui a provoqué plusieurs confidences d'enfants.
Quatre enfants ont parlé, en fait, pour dire des choses qu'ils n'auraient pas dû subir. Ils en ont parlé à leur enseignant. Qui m'en a parlé ? Un enfant a été forcé à assister à une situation de fellation. Après, moi, je n'auditionne pas les enfants. Hein. Je lance des informations préoccupantes. C'est factuel. Hein. On ouvre les guillemets et on cite.
On l'entend, hein, Bérangère, ces cours d'éducation à la vie affective, c'est de la protection de l'enfance.
En fait. Oui, à l'école primaire, comme au collège et au lycée, où il y a d'autres enjeux, hein, comme par exemple lutter contre les mensonges qui circulent sur les réseaux sociaux. Audrey Chanona est responsable des questions d'éducation sexuelle pour le syndicat de directeurs d'établissement SNPDEN, mais aussi principale de collège à Cognac.
J'ai traité, par exemple, cette année, deux affaires avec 3 mois d'écart d'un élève de 3e qui a eu des relations sexuelles avec une jeune fille pour pouvoir, en fait, imiter ce qu'il avait vu sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a abouti à 2 affaires de viol. Parce qu'en fait, pour lui, c'était complètement normal de pas accepter le consentement. Tant pis si la jeune fille disait non, parce que de toute façon, à la fin, elle allait dire oui. Et ça s'est terminé par 2 signalements au procureur.
Mais alors quand on entend ces témoignages, on comprend l'utilité de ces cours. Et on s'étonne, Bérangère, qu'il n'y ait pas plus de 6 élèves sur 10 en primaire qui aient suivi les 3 séances obligatoires.
Alors la raison principale, c'est qu'il n'y a pas assez de formation. Et tous les enseignants ne sont pas à l'aise avec ces questions. Hein. Les parents le savent, ce n'est pas toujours simple d'aborder ces sujets. Et pour Audrey Chanona, quel que soit le niveau, le compte n'y est pas du tout.
Les classes qui ont eu les 3 séances annuelles sont en réalité extrêmement rares. Que ce soit en primaire, en collège ou en lycée, on est très loin du compte. Et très vite, certaines académies se sont retrouvées débordées par le fait qu'elles n'avaient pas accès de formateurs, ce qui fait que sur le terrain, les enseignants n'ont pas été formés comme ils l'auraient véritablement dû.
Un autre frein, Bérangère, peut-être au déploiement de ces programmes, c'est l'opposition de certains parents.
Oui, mais là, surprise, hein, alors que le syndicat de la famille, l'ex-manif pour tous, ou les parents vigilants, qui sont proches d'Éric Zemmour, étaient critiques de ces programmes. Il y a finalement très peu de parents qui se sont plaints des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est ce que me rapportent plusieurs directeurs d'établissement.
Pour toute école, il y a un parent qui a dit que son enfant ne viendrait pas à l'école si on parlait de ça.
On a expliqué en début d'année en réunion de rentrée au niveau des parents qu'on allait dispenser ce type d'enseignement et on n'a pas eu de réaction plus que ça. Et je pense que les parents nous font vraiment confiance ici et puis je pense que la société évolue. Je pense que c'est une protection pour les enfants et que ça, les parents maintenant le comprennent bien.
Des directeurs qui estiment que ces séances doivent être une priorité. Pour rappel, 3 enfants par classe sont victimes d'inceste.
Et Nadja est en ligne avec nous à Nîmes dans le Gard. Bonjour Nadja.
Bonjour à tous.
Soyez la bienvenue sur RMC ce matin. Vous avez 2 enfants à l'école primaire.
Oui, c'est ça. J'ai 2 enfants en primaire et c'est vrai que chaque année, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions chez les parents. Je pense que c'est un sujet important, mais aussi un sujet sensible. Avec tout ce qu'on entend dans les médias ou sur les réseaux sociaux, certains parents peuvent être inquiets ou avoir du mal à comprendre exactement ce qu'ils enseignaient.
Parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation aussi autour de ce sujet. Nadja, vos 2 enfants, ils ont eu les cours en question ou pas, hein? Les 3 cours alors, obligatoires?
Pour tout vous dire, j'ai pas eu de retour en ce sens.
Okay.
Après, c'est vrai que je communique beaucoup avec mes enfants. On se raconte un petit peu ce qu'ils ont fait à l'école. Ils m'en ont pas parlé. Et puis, perso, j'ai confiance en l'équipe pédagogique. Donc, je sais que même s'ils l'ont mis en place, les choses ont été faites correctement, je pense.
S'ils vous en ont pas parlé, c'est peut-être parce que ça s'est très bien passé et que ça a pas soulevé davantage de questions ou d'inquiétudes chez eux. C'est plutôt un bon signe.
Il y a des établissements où on informe les parents quand il y a une séance d'éducation à la vie affective et puis d'autres où on ne le fait pas.
C'est dans le programme, on informe.
Oui, après d'informer, je vois le message d'Ali hein, qui nous écrit tous les matins et qui nous dit « Moi, j'ai choisi de ne pas mettre mes enfants de 8 et 9 ans le jour où il y avait ce cours-là. »
C'est la crainte, en effet, des écoles qui ne préviennent pas. Mais ça permet aussi.
Ali qui expliquait dans son message aussi, à cet âge-là, la sexualité. Mais c'est pas ça. Enfin, on a raconté n'importe quoi sur cette affaire.
On ne parle pas de sexualité en primaire. C'est à partir du collège.
Après, je peux comprendre que ça peut être un sujet sensible et tabou dans certains foyers. Mais il faut beaucoup de dialogue, de pédagogie et de transparence pour rassurer les parents.
Merci beaucoup Nadia, merci de votre appel. On est au cœur des débats. Vous êtes directeur d'établissement, enseignant vous-même. Vous êtes parent d'élèves, vous témoignez ce matin, vous réagissez au 32-16. Rappelons-le, on a eu quand même pas mal d'affaires de pédocriminalité ces derniers jours qui ont ému la France. 3 enfants par classe sont victimes d'inceste. Et j'ai souvenir de quand ça a été lancé, là on fait le bilan, j'ai souvenir de quand ça a été lancé d'un témoignage d'auditeur qui avait participé à un jury d'assises où une affaire avait été révélée précisément grâce à ces cours-là aussi. Merci Nadia, il est 6h19 sur RMC.
Et ça, c'est la chanson avec laquelle s'ouvre et se conclut le film Voicemails for Isabelle, si tu m'écoutes en français.
Elle a eu des devoirs hier, Elise.
Une production Netflix qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux pour son prétendu pouvoir à nous émouvoir, à nous faire pleurer en 15 minutes chrono. Et alors, moi, j'adore les défis et puis j'adore aussi pleurer parce que je suis poisson, c'est le signe astrologique des fragiles. Du coup, j'ai regardé le début du film jusqu'à la 15e minute, donc, où l'héroïne perd sa sœur et je ne divulgâche rien. C'est dans le synopsis, décès accompagné pourtant de la très efficace et larmoyante chanson de The Cinematic Orchestra. Et je suis au regret de vous annoncer que pas une seule larme n'a coulé sur mes joues, rien du tout.
Pendant le film, hein. Parce qu'après le doublé d'Mbappé, t'étais...
Ah bah, Michael Olysée, là j'ai bien pleuré. Alors plot twist, comme disent nos experts ciné préférés, moi qui devais me contenter des 15 premières minutes du film, et ben en fait je suis restée accrochée tout du long, jusqu'à la fin, jusqu'au match des Bleus, donc 23h, c'est ça le retournement de situation. J'ai pas pleuré, mais j'ai adoré cette comédie romantique et sa bande-son. Alors en fait, là où on nous promet des larmes, vous aurez des rires, c'est hyper drôle, c'est cynique, c'est inspiré d'ailleurs d'une histoire vraie, celle d'une jeune femme qui continue de laisser des messages vocaux à sa défunte sœur jusqu'au moment où le numéro est réattribué à un homme qui va tomber amoureux d'elle, hein. Le tout sur une playlist qui va ravir les fans de Taylor Swift. Il y a tous les codes de la comédie romantique, la course sous la pluie, la fin qu'on a vu venir à 10 bornes, mais franchement c'est très réussi et d'ailleurs le film est dans le top 10 du classement mondial de Netflix et c'est pas pour rien.
Toujours pas pleuré depuis ?
Non, toujours pas, non mais
truc, t'as un truc dans l'œil là.
Rien du tout.
Cœur de pierre. 6h21, vous êtes sur RMC et RMC Story, un excellent réveil à toutes et à tous. Les grands titres à la une ce matin.
Et nos bleus qui nous ont presque émus hier soir, ils rejoignent le Paraguay en 8e de finale de la Coupe du Monde après leur victoire 3-0 face à la Suède. Prochain match samedi donc. Ça y est, on connaît les dates de la prochaine élection présidentielle. Premier tour le 18 avril, second tour le 2 mai. Et puis le Premier ministre face à une motion de censure déposée par les écolos qui estiment qu'il aura, je cite, des morts sur la conscience après les canicules qui ont frappé le pays.
Il est 6h22 et le docteur du morning est là, Aurel Guedj, bonjour.
Bonjour.
La consultation gratuite dans un instant.
Vous aimez les sorties en forêt, mais comment se débarrasser des tiques?
Ah, ça c'est utile. Ensuite.
Jusqu'à 7h.
5-7, le morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h25 sur RMC et RMC Story.
RMC, consultation gratuite.
Et c'est l'été, et pendant ces mois d'été, eh bien, c'est le pic d'activité des tiques. Chaque année, entre 30 000 et 60 000 Français contractent la maladie de Lyme. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement, Aurel Guedj, et surtout, comment on s'en protège?
La maladie de Lyme, c'est une maladie qui est liée à une bactérie, et cette bactérie, elle est souvent portée par les tiques, et les tiques vont pouvoir vous la transmettre. Cette maladie, elle va se manifester généralement par une atteinte cutanée, une atteinte articulaire, une atteinte neurologique. Et on a pu voir de nombreux témoignages dans différents médias de patients justement où c'est extrêmement handicapant. D'ailleurs, cette maladie, il faut bien comprendre que elle se traite assez simplement. Elle peut se traiter par antibiotiques. Sauf que très souvent, l'histoire, c'est une tique qui est restée longtemps, une tique qui a été infectée. Cette tique vous a transmis, eh bien, cette bactérie qu'elle portait. Et malheureusement, vous avez été infecté. Généralement, il faut comprendre que les tiques peuvent ne pas être porteuses, mais ça va dépendre aussi des régions. Par exemple, vous avez entre 15 et 20% des tiques qui sont infectées par la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme dans l'Est, alors que dans certaines autres régions en France, vous êtes à moins de 5%. Donc ça va être vraiment variable en fonction des régions pour évaluer le risque.
Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on découvre une tique sur sa peau?
Bon, déjà, première chose, on panique pas. Il faut savoir que le risque, lorsque vous avez... C'est pas facile, voir une espèce d'insecte qui est fixé dans la peau. Qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va l'enlever. Pour ça, il va falloir utiliser un tire-tique. Alors attention, ne le faites pas avec vos doigts, parce que si vous allez faire quand vous allez prendre avec vos doigts la tique...
Oh,
Non, on va éclater parce que c'est du sang en fait.
Alors en fait, c'est exactement comme si c'était une bille de sang. Donc en appuyant dessus, on va renvoyer en fait, bah elle va régurgiter en fait dans le patient. Hein. Faut bien comprendre que comment ça se fixe une tique, ça mord et ça met sa tête. Donc en fait, quand vous appuyez sur son ventre, bah ça va recracher le sang et ça va recracher sa salive. Donc vous avez une chance d'augmenter encore plus l'inoculum. Ce qu'il faut en fait, c'est tout simplement
augmenter plus. Pardon, il y en a pas la VO.
De continuer à parler en latin à l'antenne.
D'augmenter la quantité que vous allez envoyer de produits. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est faut surtout pas tirer, faut un tire-tique où l'idée en fait ça va être de tourner et d'enlever
comme
la tique. Exactement, parce qu'en fait la tique, eh bien elle se fixe avec ses crocs et donc l'idée c'est de lui faire lâcher prise parce que sinon
la dévisse
c'était une magnifique imitation de tique que vous avez fait.
Oui, désolé, c'était silencieux pour ceux qui nous écoutent en radio, mais, je fais très bien la tique.
Mais est-ce que ça veut dire que du coup on va devoir se traiter, comme on sait pas si elle est contaminée à la maladie de Lyme ou pas, ça veut dire qu'il va falloir se traiter à des antibiotiques et tout à chaque morceau de tique?
Alors non, si c'est fait dans les 24 premières heures de toute façon, non, il n'y a pas de risque. Par contre, si vous êtes piqué par une tique et que vous ne savez pas trop quand est-ce qu'elle vous a piqué, il faut regarder pendant le mois qui suit s'il y a une tache rouge qui apparaît et qui se répand. Et dans ce cas-là, il faut aller voir votre médecin traitant qui vous mettra sous antibiotique.
Merci Aurel. On pense à inspecter nos corps, les jambes des enfants, quand on s'est assis dans l'herbe, etc. En rentrant de promenade, on jette un coup d'œil, on passe la main et on vérifie qu'on n'est pas mordu par une tique en l'occurrence. 6h28, merci beaucoup Aurel.
Et c'est l'heure de jouer avec Jean-Philippe qui nous appelle depuis la Loire. Salut Jean-Philippe.
Oui, bonjour.
Comment ça va ce matin?
Ça va bien, et vous?
Bah, ça ira mieux si vous me donnez le bon mot caché du jour.
Alors je crois que c'est gabé.
Mais oui, c'était bien gabé, plaisanté, fanfaronné. Vous l'avez entendu, il a été peu prononcé, mais Jean-Philippe était vigilant. Et ça vous permet de repartir avec vos vacances, finalement. Votre séjour dans l'un des 400 campings Homer, des campings 4 et 5 étoiles situés en France, en Europe, pour voyager entre 2 nuits et 1 semaine. Et jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir. Vous allez bien en profiter, Jean-Philippe, grâce à RMC.
Eh ben, je vous remercie beaucoup. Ça va faire très plaisir à la famille.
Bonne journée. Bah oui. Pour toute la famille.
On embrasse toute la famille de Jean-Philippe dans la Loire.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une, le bilan des canicules.
Au moins 300 morts en mai, plus d'un millier déjà. En juin premier, bilan donc ce matin, une octogénaire, vous allez voir, est morte de chaud à l'hôpital. C'était la semaine dernière, témoignage RMC dans un instant. Vous allez entendre dans ce journal la sortie d'Emmanuel Macron contre la peine de mort et la joie aussi des Bleus, qualifiés pour les 8e de finale du Mondial cette nuit en battant la Suède, largement 3-0.
Les canicules à répétition mettent à mal notre système de santé. On en a la confirmation ce matin avec ce témoignage RMC.
Oui, la journée de solidarité, chacun s'en souvient, a été créée après la canicule de 2003. Elle rapporte autour de 3 milliards d'euros par an pour financer la prise en charge des personnes âgées notamment. On est donc 23 ans plus tard et le gouvernement a commandé en urgence des milliers de climatiseurs pour faire face au retour de la chaleur la semaine prochaine dans les hôpitaux où donc on meurt de chaud. Littéralement, c'est ce qui est arrivé à une octogénaire la semaine dernière dans le Nord. Une triste fin de vie que nous raconte Marion Gauthier pour RMC.
Entrée pour une sciatique, sous morphine, Monique dépérit sur son lit dans la pénombre et l'air chaud d'un seul ventilateur, décrit son auxiliaire de vie.
Il fait extrêmement chaud, vraiment. Même moi, c'est suffocant.
Un climatiseur est acheté par la famille avant une dernière visite.
J'ai mis climatiseur en route et là, il y avait écrit 39. Je me dis que c'est complètement dingue. Je passe des glaçons dans son dos pour la rafraîchir au maximum. Je dis, et là, t'as à boire. Il faut que tu te reposes, tu reprends des forces et demain matin j'arrive. Et il n'y aura jamais de demain matin.
La culpabilité de celle qui avait fini par appeler Monique mamie.
Moi je suis dévastée.
Et la colère de sa fille.
En fait, on est sonné en 36 heures. Ma mère est morte en 36 heures pour une sciatique. Oui, elle avait des pathologies. Mais quand elle est arrivée à l'hôpital, il n'y avait rien. C'est la chaleur qui l'a fait décompenser, en fait.
Catherine revient sur l'annonce du décès à 4h du matin. Sans explication, dit-elle, elle raconte cet appel de la chambre mortuaire qui déborde et ne peut accueillir un corps de plus.
Ça paraît irréel. Quand on dit il va y avoir 1000 morts, 2000 morts, 3000 morts, c'est pas des petits bâtons qu'on fait sur un mur. Ce sont des familles qui sont dévastées.
Contacter l'hôpital n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Alors Santé publique France donnait une première estimation d'au moins 300 morts de plus que la normale pour la première canicule, celle du mois de mai, dans les 17 départements concernés. Et hier, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu est sorti de ses gonds, littéralement dans une joute verbale avec les écologistes qui avancent le chiffre le risque, disent-ils, de 10 000 morts pour la canicule de juin et qu'il dépose une motion de censure contre le gouvernement.
Est-ce qu'on en est à chercher des responsabilités politiques? Cette passe d'armes entre les écolos et le Premier ministre, en colère hier à l'Assemblée, ça vous fait réagir? Vous continuez au 32-16 et sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
La politique ce matin, c'est aussi le calendrier de la prochaine élection présidentielle. Les dates sont tombées, ça y est, le premier tour aura lieu le 18 avril pendant les vacances scolaires et le second le 2 mai au lendemain donc de la fête du travail. En attendant, faut que vous écoutiez cette sortie d'Emmanuel Macron sur la peine de mort. Après plusieurs faits divers qui ont bouleversé les Français, le président a pris la parole sur le sujet, c'était hier à l'occasion du congrès mondial contre la peine de mort qui se déroule à Paris.
Et l'espérance d'une abolition universelle constitue un horizon accessible. Toutefois, les risques demeurent dans beaucoup de pays et quand je vois les débats dans nos pays, je considère que rien n'est acquis. Ne pensez pas que vous êtes les combattants d'une cause qui vaut pour tel ou tel pays qui n'a pas encore aboli. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, ce débat revient. Beaucoup se remettent à penser que la peine de mort serait une réponse. Alors ne croyez pas une seule seconde que le combat qui est le vôtre ne vaut pas aussi pour ici et pour aujourd'hui.
C'est une enquête particulièrement complexe qui ne fait que commencer, prévient déjà le parquet de Paris, 3 jours après le dramatique accident d'avion de tourisme qui a fait, vous le savez, 11 morts près de Nancy. On n'a toujours aucune piste qui est à avancer pour expliquer cet accident. On sait juste que l'enquête sera longue, Lucas Laubert.
Oui, au moins plusieurs mois d'investigation et un travail extrêmement minutieux fait d'expertise et de contre-expertise pour faire parler l'avion et comprendre sa chute encore inexpliquée peu de temps après son décollage dimanche. À ce stade, on sait que l'appareil avait déjà volé la veille et le matin même, il en était à sa 3e rotation dimanche. Il avait effectué les 2 vols précédents sans problème apparent. Il convient donc d'identifier de possibles défaillances techniques, voire des responsabilités humaines. En parallèle, une enquête de sécurité a démarré. Elle a été confiée au BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation civile. Enquête qui doit aussi déterminer la cause du crash afin d'améliorer les procédures et faire en sorte qu'un tel drame ne se reproduise pas.
Il est 6h35 sur RMC et les Bleus ont impressionné le monde entier cette nuit.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Impressionné le monde entier en se qualifiant pour les 8e de finale avec une victoire 3-0 contre la Suède cette nuit donc à New York. Kylian Mbappé a encore mis un doublé. Bradley Barcola lui aussi a marqué. Michael Olise a failli mettre un ciseau absolument incroyable. C'était impressionnant, Florent Germain.
Oui, les Bleus ont écœuré la Suède et fait forte impression. 3-0 des Suédois dépassés, des buts et des gestes de grande classe. Le sélectionneur Didier Deschamps savoure, mais doit quand même calmer le jeu.
Oh là, non, il y a toujours forcément des problèmes, même quand il y en a, moi j'en ai pas. Il y a des choses à améliorer, toujours. Non, allez-y, trouvez des problèmes, c'est bien, il faut pas que ça soit tout beau, tout rose. On va pas tomber dans l'euphorie non plus, on est en 8e, il faut apprécier.
La démonstration de technique et de puissance des Bleus ne va pas calmer l'euphorie des supporters français.
Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant et on a certains joueurs qui ils font des fulgurances phénoménales.
On va forcément aller loin dans la compétition. On peut parler des triplés de Messi, etc. Mais je trouve qu'on est vraiment favoris.
Nous, on veut la finale. On veut se retrouver ici, en fait, le 19. Allez les Bleus!
Pourtant, le capitaine Kylian Mbappé envoie un message. La France est en mission et ne va pas se laisser flatter par tant d'éloges.
Je pense que l'équipe est parfaitement consciente de ce qu'on doit faire ici. C'est l'idée de ce groupe, c'est l'ADN de ce groupe. On est tous ensemble.
En tout cas, le sélectionneur de la Suède l'a reconnu. La France est la meilleure équipe qu'il a vue depuis le début de la Coupe du Monde.
8e de finale donc. Samedi, 23h contre le Paraguay, ça se jouera à Philadelphie. Je vous donne le résultat de là, la nuit, c'est la qualification du Mexique 2-0 contre l'Équateur, ça se déroulait à Mexico. Et alors, l'autre information foot de la journée, c'est la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux, exclus des compétitions nationales, on l'a appris hier, par le gendarme financier du foot français, hein, Clément Brossard.
Oui, les Girondins de Bordeaux, engagés dans un processus de vente, devaient apporter devant la DNCG la somme de 9 millions d'euros. Ils n'ont pas été capables de le faire. Conséquence, Bordeaux devra repartir en Régional 1 la saison prochaine, soit la 6e division du football français. Une fois le verdict tombé, le club a immédiatement fait appel, lui permettant d'obtenir un délai afin de réunir la somme. En Gironde, on se dit confiant, 6 millions d'euros devraient être apportés par le fonds d'investissement britannique Sparta, futur propriétaire du club. Les trois restants sortiraient, eux, de la poche de l'actuel nouvel patron, Gérard Lopez. Une opération qui devra se faire avant le 10 juillet, sous peine d'être définitivement barrée des compétitions nationales la saison prochaine.
Le Quintet, Quentin, c'est à Enghien.
Oui, 18h30, le 7, le 11, les pronos de la Dream Team, le 7 en favori, le Graal, le 11 en outsider, l'Ariano.
Merci beaucoup, Quentin Vinet. Il est 6h37. Alors, pour tout vous dire, hier, on a donné des devoirs à Élise Dangean. Il y avait un article sur un film sur Netflix qui apparemment vous garantit de pleurer dès la 15e minute. Ah. Alors Élise a regardé le film hier soir.
Oui, avant le match des Bleus.
Elle a pas pleuré.
Eh ben non.
Cœur de pierre.
Jusqu'à la 15e, j'ai pas pleuré et j'ai même fini le film tellement j'ai adoré. Ça s'appelle pourtant, Si tu m'écoutes.
Et pourtant, t'avais un argument. Hein. T'as dit je suis poisson, oui. C'est le signe des fragiles.
Voilà.
Jonathan est en ligne avec nous. Je te laisse, Jonathan.
Alors, on a Jonathan, oui. Jonathan, il est bélier. Bonjour, Jonathan.
Oui, bonjour, l'équipe.
Et vous avez pleuré devant ce film, Jonathan?
Ah oui, mais moi, de toute façon, devant ce genre de film, j'ai toujours la larme qui coule. Je suis très, très sensible. Et c'est vrai que bah, il n'y a pas besoin d'être poisson pour verser sa petite larme devant ce genre de film.
Non, mais c'est vrai que je connais bien les béliers aussi et vous êtes plutôt sensible.
C'est pas possible.
Bon, je m'arrête là parce qu'ils sont tous en train de se moquer de moi. Vous avez pleuré à quelle minute? À la 15e minute ou avant, après?
Ah bah au moment du décès de la sœur, bien évidemment. Et puis bon bah après, comme je suis quelqu'un d'assez sensible qui aime bien ce genre de film, qui en regarde assez souvent, bah du coup il y a certains moments bien sûr qui font verser les petites larmes.
On va pas divulgâcher, mais le décès de la sœur c'était dans le synopsis, donc tout va bien.
Ouais, alors moi voilà, je me demande mais comment elle sait qu'elle est bélier? Mais c'est sur l'affiche. Anthony, t'es de quel signe toi?
Je savais pas que sur les fiches l'auditeur.
T'avais quel signe du zodiaque quand t'as dit
je suis beau? Mais ça n'a aucune importance.
Non mais on va faire un.
Mais ça m'étonne pas du tout.
on arrête là. Jonathan, merci de votre appel. Vous ferez des soirées ciné avec Élise.
Ouais. Merci,
merci, bonne journée.
À bientôt.
Il est 6h39. Très bon réveil à toutes et à tous. Partir en vacances en voiture coûte 40% plus cher qu'il y a 10 ans. Mauvaise nouvelle.
Ça fait pleurer.
À l'approche des vacances. Ah oui, ça me. Ah oui. Ouais, d'abord rager. Ouais. Et après pleurer.
Ensuite pleurer.
C'est ce que nous apprend Roul, le premier club automobile de France, club que vous représentez à l'aide d'Assigny. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, qui sont les plus concernés? Quelles sont les conséquences sur les vacances? Et surtout, comment limiter les coûts? Vous allez nous répondre dans quelques minutes.
Et puis, elle est là, la bande du morning. Virginie Fulpin, à ma gauche, pour la causerie.
On a passé des années à chercher le nouveau Zidane. Je crois qu'on l'a trouvé.
Et Anthony Morel pour C'est déjà demain.
Est-ce que vous avez remarqué que les prix des appareils électroniques étaient en train de flamber là depuis quelques mois? Ah oui, mais c'est en train d'exploser. Et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Je vais vous expliquer pourquoi.
À tout de suite sur RMC, RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h43 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
Et plus de 6 Français sur 10 prendront leur voiture pour partir en vacances cet été. Et si c'est votre cas, mauvaise nouvelle, l'addition risque d'être encore plus salée. Et pour cause, ça vous coûtera 40% plus cher qu'il y a 10 ans.
C'est ce qu'on apprend dans une étude qui est publiée par Roule, le premier club automobile en France. Bonjour Alette Dessigny.
Bonjour.
Vous êtes justement directrice impact chez Roule. Alors cette augmentation, on la doit, faut le dire clairement, principalement à la hausse des prix des carburants et des péages.
Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on peut voir. Alors le prix des carburants a énormément augmenté. Le prix des péages, lui, est indexé sur l'inflation. Donc c'est pas forcément ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu 20% d'inflation sur les 10 dernières années. Donc effectivement, ça a créé une grosse augmentation. Et aujourd'hui, si on fait des calculs sur un Paris-Nice, par exemple, on arrive quasiment à 200 euros l'aller. Donc 400 euros aller-retour.
Oui, contre 276 il y a 10 ans, si je reprends vos chiffres.
Hein. Exactement.
Ce sont vos chiffres. Cela dit, vous dites qu'il y a une inflation de 20%. Là, on parle de 40% de hausse. On va deux fois plus vite que l'inflation.
Alors, on les a deux fois plus vite, oui, surtout sur les carburants, notamment sur le diesel, où en fait, on est à une hausse de 67%, donc ce qui est quand même conséquent, un peu moins sur l'essence, 45%, mais c'est conséquent, effectivement. Donc pour ça, derrière, qu'est-ce que ça nous dit et comment on peut s'en sortir pour faire réduire le prix des trajets? Ben, il faut préparer son trajet, évidemment. Il faut rouler moins vite. Ça, on sait aussi que c'est une façon de réduire la consommation. Et puis, il faut peut-être éviter les péages, si vous pouvez, parce que si vous avez le temps, vous pouvez évidemment vous gagner le prix des péages.
Qui souffre le plus de cette hausse?
Alors
tout le monde en fait.
Tout le monde, parce qu'en fait aujourd'hui, alors comme vous le disiez, de plus en plus les Français cette année vont partir beaucoup en France. Donc, alors aussi pour des raisons de coût et pour des raisons d'instabilité géopolitique. Donc, en France, on prend souvent sa voiture, puisque effectivement, quand on est une famille, ça coûte moins cher de partir en voiture que de partir en train, surtout pendant les grands départs.
Pardon, c'est important. Malgré ces 40% de hausse, ça reste le moyen le moins cher.
Alors, le moins cher,
c'est,
ça dépend.
Non, à Paris-Nice, c'est moins cher en avion.
Oui, enfin, toute seule. Si t'es 4,
voilà, ça dépend. Oui, il y a pas de, on peut pas faire une généralité. En fait, il faut regarder en fonction de la situation. Si vous êtes tout seul, effectivement, ça vous coûtera certainement moins cher en train. Et évidemment, il y aura pas d'émissions de CO2. Donc, c'est quand même, il y a quand même des avantages. En revanche, si vous êtes une famille et que vous devez partir, il faut pouvoir payer un aller-retour Paris-Nice. Donc, la voiture reste quand même un peu moins chère. Surtout en faisant des petits ajustements, comme préparer son départ, ou aujourd'hui il y a des applications de navigation qui vous permettent de dire bah tiens là le carburant est moins cher. Autour de vous, vous trouverez un carburant moins cher.
Il faut ruser, quoi. Il faut mieux préparer.
Justement,
il y a Benoît qui a composé le 32-16 ce matin depuis la Manche. Ce sujet vous a fait réagir, Benoît, et vous avez des astuces, je crois.
Oui, bonjour. Comment ça va?
Très bien. Et vous partez où en vacances cet été?
En Saône-et-Loire.
Ok, et vous prenez la voiture?
Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. De campagne à campagne, on n'a pas trop le choix, quoi. Surtout en diagonale sur la France, parce que sinon, il faudrait repasser par Paris, changement à Paris, et puis j'ai besoin de la voiture sur mon lieu de vacances.
Oui, donc pour vous, la question est réglée. Alors, est-ce que, Benoît, d'abord, est-ce que vous mesurez cette hausse au fil des années? Alors, elle sera peut-être pas de 40%, parce que ça dépend des départements, des autoroutes, etc. Mais est-ce que vous mesurez sur cette hausse, et comment est-ce que vous la limitez, surtout?
Bah, en fait, moi déjà, vu que je descends en diagonale par la France, je mixe autoroute et nationale pour descendre en diagonale plutôt que de descendre en escalier. Parce qu'en France, si on passe pas par Paris, c'est le bordel. Et j'ai converti ma voiture à l'éthanol. Du coup, je paye le litre à 80 centimes. Donc la hausse.
Il y a presque un sourire dans votre voix quand vous le dites.
Oui. Oui, c'est sûr. Ça, l'autre jour, j'étais en train de faire le plein, il y a un mec qui vient me voir, il me fait « Mais vous mettez quoi dans votre voiture pour ce prix-là ?» Je fais « De l'éthanol ?» Il fait « Ah ouais, quand même, ça vaut le coup, ouais. »
En ce moment, donc, oui, c'est sûr. Bon, après, même si ça a baissé, carburant alternatif, solution.
Oui, c'est une solution, effectivement. Alors, il faut avoir le véhicule qui permet d'être converti à l'éthanol. Tous les véhicules ne sont pas possibles, mais c'était une des solutions possibles, effectivement.
Et l'électrique?
Alors l'électrique, j'ai envie de dire, c'est le Graal, puisque aujourd'hui on sait que 100 € en véhicule électrique, ça vous coûte 100 km, merci. 100 km en voiture électrique, c'est 3 €. 100 km en voiture thermique, c'est 12 €. Donc le calcul est assez rapidement fait.
Sauf que vous parlez en général, là.
Je parle en général.
Sur l'autoroute, faire le plein avec une électrique,
ça coûte plus cher. Voilà. On est bien d'accord.
C'est tout ce que vous disiez, la préparation, l'organisation du.
La préparation, l'organisation, vérifier où il y a des bornes disponibles. Si vous êtes en électrique, vérifier où la station essence est la moins chère. Éviter les pics et puis lever le champignon, si on peut dire comme ça. Quoi.
Merci Alette Dassigny pour ces conseils précieux. Je rappelle que vous êtes directrice Impact chez Roule, premier club automobile en France à l'origine de ce chiffre ce matin. Addition. De plus en plus salé sur les routes de France.
Et ça vous fait réagir, vous continuez au 32-16. Comment est-ce que vous allez partir là? On est à la veille de juillet. Comment est-ce que vous partez en vacances cet été? Voiture, train, avion, vous nous le dites au 32-16 sur le WhatsApp RMC, le 06 12 424 424. Et merci à Benoît par ailleurs qui était en ligne avec nous. Il est 6h49. La bande est là, et avant de retrouver Virginie et Anthony, les grands titres à la une de l'actualité.
Et nos bleus flamboyants contre la Suède, ils affronteront le Paraguay en 8e de finale après cette victoire 3-0 avec un homme qui a particulièrement brillé, Michael Olisée. On en parle dans un instant. Ça y est, on connaît les dates de la prochaine élection présidentielle. Premier tour le 18 avril, second tour le 2 mai. Et puis c'est une information RMC. Dans le primaire, seuls 6 élèves sur 10 ont bénéficié de l'ensemble des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, pourtant obligatoire.
Il est 6h49. Et la bande est là, c'est l'heure de la causerie de Virginie Fulpin. Virginie, les Bleus sont en 8e de finale de la Coupe du Monde. Victoire 3-0 contre la Suède hier soir. Doublé de Kylian Mbappé et un but de Barcola. Mais vous,
Ce que vous retenez, Virginie, c'est la prestation de Michael Olise.
Est-ce qu'on mesure bien la chance qu'on a d'avoir ce joueur en équipe de France ? Que dis-je joueur ? On devrait plutôt dire magicien ou chef d'orchestre, parce qu'il a l'art de transformer le football en art et d'éclairer le jeu des Bleus. Hier soir, Michael Olise a été éblouissant, comme depuis le début de la Coupe du Monde. Il en est à 5 passes décisives dans la compétition, mais des vraies passes décisives. Hein, c'est-à-dire que c'est lui qui les crée vraiment. Pour qu'on se rende bien compte, 5 passes décisives dans une seule Coupe du Monde, il n'était que 5 à l'avoir fait jusque-là, dont Pelé en 1970 qui est allé jusqu'à 6 et Maradona en 1986. Voilà, on parle juste de ces noms-là.
Ah oui. Hein.
Michael Olise est en train de faire sa place parmi les plus grands. En équipe de France, il joue en numéro 10, même s'il porte le numéro 11, c'est-à-dire en meneur de jeu, en gros, et on tient avec lui un joueur de la trempe de Michel Platini ou de Zinedine Zidane, tout simplement.
Et alors, il y a des gens qui découvrent le génie de Michael Olise depuis le début de cette Coupe du Monde, forcément.
Bah, avant ce mondial, ceux qui suivent le football de près avaient déjà conscience de sa qualité, mais tout le monde ne regarde pas tous les matchs du Bayern Munich, hein, et je passe sur ceux qui savaient avant tout le monde. Ils l'avaient repéré quand il jouait à Crystal Palace entre 2021 et 2024.
Ouais.
Non, le grand public découvre vraiment Michael Olise aujourd'hui. J'envie presque ceux qui ne l'avaient jamais vu jouer. Vous savez, comme quand vous avez un avis, Mick a encore jamais vu votre série préférée. Alors pour les séries, je dirais rien, mais pour Michael Olise, on peut spoiler. Vous allez vous régaler, c'est un grand, un très grand joueur. Et oui, on a de la chance de l'avoir en équipe de France, parce qu'il est né, il a grandi à Londres, un père anglo-nigérian, une mère franco-algérienne. Il avait le choix entre 4 sélections possibles et il a choisi la France. Pour plusieurs raisons, je vais vous en donner 2. Allez, la nourriture a beaucoup d'importance pour lui. Désolé pour les Anglais, mais bon, il y a un moment, il n'y a pas photo. Et parce qu'il était un fan absolu de Thierry Henry quand il était mort.
Ah.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de secret. Hein,
ah. Bon, voilà. Il a fallu qu'on tombe sur Thierry Henry.
Oui.
On retombe toujours sur Thierry Henry.
Michael Olise qui s'intègre parfaitement, il faut le dire, dans cette équipe de France.
Alors, on dirait qu'il a joué toute sa vie avec Kylian Mbappé. Vous pouvez lui bander les yeux sur le terrain. Il trouvera quand même le moyen d'offrir un caviar au capitaine des Bleus. Et toute l'équipe a parfaitement conscience de la chance d'avoir Michael Olise. La preuve, hier soir, il a subi une vilaine faute de la part des Suédois. Il est resté quelques secondes à terre. Et Kylian Mbappé, comme Ousmane Dembélé, était absolument furieux. On ne touche pas à notre magicien. Pour l'instant...
Il faudrait pas qu'il se blesse.
Non, il faudrait pas qu'il se blesse. Je peux vous dire que les deux, là, ils étaient pas contents, mais du tout. Hein. Pour l'instant, il manque qu'une chose, en fait, c'est qu'il marque un but. Ça a bien failli arriver hier soir avec un splendide retourné acrobatique, mais le ballon a fini sur le poteau. Ça aurait été le chef-d'œuvre absolu. Ça viendra, n'en doutant pas une seconde.
Qu'est-ce que c'est bien l'intelligence artificielle.
Ouais.
On peut faire une chanson sur n'importe quel joueur.
N'importe quel joueur.
Pardonnez-moi.
Ça servait à quoi que je fasse cette
Je vais prendre le texte de cette chronique, je vais le donner à ChatGPT, je vais dire fais-moi une chanson. Alors est-ce que c'est le nouveau Zidane? Non, d'habitude ça vous agace. Hein, cette.
Ouais, mais là,
je connais Virginie Parker depuis 15 ans.
D'habitude, oui, mais pas là.
Mais pas là. C'est fou.
Tout est possible.
Incroyable.
Dans ce mondial. L'intelligence artificielle qui nous fait de bonne musique, mais qui nous fait aussi augmenter le prix de nos appareils électroniques. Augmentation de manière spectaculaire, Anthony Morel. Et en fait, c'est à cause de ChatGPT.
Oui, c'est ça, indirectement. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Alors, vous l'avez peut-être constaté si vous avez essayé de changer votre smartphone, votre ordinateur récemment. Là, les derniers en date, c'est Apple. Ils ont annoncé des augmentations de prix de 15 à 25%. Sur leur MacBook.
Avant.
Oui, c'était pas cher avant, ça va. Ça fait pas une grosse différence, évidemment.
Ouais,
et les iPads, l'iPad de base, par exemple, qui passe de 389 à 509 euros. Les iPhones, pour l'instant, sont préservés, mais je vous le dis, ça va douiller dans les mois qui viennent. Clairement, les prochains modèles coûteront plus cher. Et effectivement, ils étaient déjà pas donnés. Et c'est vrai pour tout le monde. Là, je donnais l'exemple d'Apple, mais c'est vrai sur les consoles de jeux.
Oui.
Il y a des augmentations sur les PS5, sur les Xbox. Vous avez eu des augmentations sur les ordinateurs également. Et il y en a d'autres à venir. Asus, Acer, Dell, Xiaomi. Donc, toutes les grandes marques d'électronique ont annoncé des augmentations de prix. À cause de quoi ? À cause de la pénurie de RAM. La RAM, c'est la mémoire vive, c'est un composant essentiel, c'est ce qui permet aux ordinateurs et aux smartphones de tourner rapidement, pour le dire simplement. Et donc, le problème, c'est que la RAM, il y en a absolument partout. Il y en a dans vos appareils électroniques, il y en a dans les voitures électriques, et il y en a aussi dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utilisez ChatGPT, Claude, Gemini, eh bien, dans les data centers qui font tourner l'IA, il y a énormément, énormément de RAM. Or, aujourd'hui, pour les fabricants de ce composant, eh bien, c'est beaucoup plus rentable de se tourner vers l'intelligence artificielle que vers les smartphones ou vers les ordinateurs, et du coup, il ne leur reste plus que les miettes. Pour vous dire, parce qu'en ce moment, ces entreprises, il y en a 3 dans le monde qui fabriquent de la RAM, elles brassent un pognon de dingue, comme dirait l'autre. SK Hynix, le coréen, les salariés de cette entreprise, ils ont touché une petite prime d'intéressement participation. Vous savez combien ?
Non.
400 000 euros
oh,
par salarié,
non.
En moyenne. 400 000 euros. C'est pour vous dire dans les trucs. Aujourd'hui, sur les sites de rencontres coréens, le profil le plus recherché au-dessus des médecins et des avocats, c'est le salarié de SK Hynix. Et c'est une réalité, hein. Je ne blague pas quand je dis ça. Bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, eh ben, on a une pénurie et que ça a un impact, évidemment, sur le prix de nos ordinateurs, de nos smartphones, et que malheureusement, ça va continuer dans les mois qui viennent.
Ça va continuer? Donc, oui. Ça sert à rien de se dire j'attends pour acheter.
Non, exactement. La stratégie, c'est de ne pas attendre. Ça sert à rien. On ne sait pas quand ça va redescendre. Certains disent 2028, d'autres 2030. Bref, ça va pas se terminer tout de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir aussi des phénomènes. Vous savez, la shrinkflation, on en parle beaucoup. C'est le paquet de chips, il faisait 100 grammes. Maintenant, il fait 80 grammes et c'est le même prix. Et ben, ça va être la même chose dans l'électronique. Vous allez avoir des appareils, par exemple, des téléphones. Il y avait 12 gigas de RAM. Ben, on le vous vendra avec 8 gigas de RAM, mais ce sera le même prix. Et vous verrez pas la différence. Enfin, peut-être à l'usage.
Merci, Anthony Morel. C'est déjà demain. Il est 6h55. Pour l'heure aujourd'hui, c'est Apo qui est avec nous.
Salut à tous. Vous avez veillé?
Non.
Non.
J'avoue, j'ai fait l'impasse.
Mais il y en a beaucoup d'entre vous match. Qui se sont couchés très très tard. Mais quel match. Les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale. Victoire facile honnêtement, hein. 3-0 contre la Suède. On est solide, très très solide. Le match s'est terminé vers 1h du matin. Vous avez sans doute suivi la rencontre. Venez nous raconter, venez réagir. Et vous projeter avec nous. On vous attend au 32-16 ou sur le WhatsApp 06-12-424-424. Le bonheur.
5-7. Le Morning RMC.